Bonjour, eh bien nous nous retrouvons avec Elisabeth pour l'émission Les mots de la foi. Nous sommes toujours autour du livre de Bernard Sesbouet, L'homme merveille de Dieu. Et dans les chapitres que nous lisons actuellement, eh bien nous retrouvons la personne du Christ. Dans la dernière émission, nous avons repris cette conclusion de Pierre Teilhard de Chardin, le Christ alpha et l'oméga, premier et dernier, commencement et fin. Donc Jésus-Christ est vraiment le médiateur. Il est l'homme sauvé et l'homme sauveur, nous dit le père Bernard Sesbouet dans ce chapitre 12 de son livre. Et Jésus sauve, c'est le programme en fait.
Oui, c'est déjà son nom. Son nom, ça veut dire Dieu sauve. Et c'est le programme parce que Jésus nous sauve tous, la multitude.
Oui, alors c'est vrai, Dieu sauve pour nous, pour vous, pour la multitude, pour nos péchés. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, effectivement, Jésus est l'homme pour les autres. Mais ça ne suffit pas, parce que ça, c'est la vérité du catéchisme, si j'ose dire.
Oui, et alors, le père Sesbouet insiste sur le fait que Jésus nous révèle la vérité de l'homme parce qu'il est lui-même un homme vrai. C'est-à-dire un homme dont toutes les réactions sonnent justes. Et c'est lui qui nous révèle le meilleur de l'homme en lui-même.
Le meilleur de l'homme en lui-même, et aussi parce qu'il y a totalement coïncidence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Dans l'Évangile, c'est la personne de Jésus. En lui, l'Évangile, la parole se fait chair. Et pourtant, ce Jésus vit avec tous les hommes, y compris les pécheurs, d'ailleurs, ce qu'on lui reproche dans l'Évangile.
Oui, il vit avec tous les hommes, il partage leur vie, chacun de ses gestes, chacune de ses paroles sont un don qui change le destin de son bénéficiaire. Tout cela, c'est ce que le père Sesbouet nous montre dans cette image de l'homme sauvé qui est le bonheur de l'homme vivant en lui.
Alors, bien évidemment, nous fonctionnons avec les évangiles, et nous sommes sur une radio chrétienne et nous nous plaçons comme croyants. Voilà, oui. Peut-être il faut le dire, parce qu'il ne s'agit pas là d'une étude de texte, entre guillemets, scientifique. C'est véritablement, le père Sesbouet nous partage sa foi vivante et cela permet de peut-être réfléchir sur la foi. En tout cas, c'est ça l'intérêt de ce livre. Alors, Jésus, l'homme sauveur, parce qu'il donne en lui-même l'image de l'homme sauvé. Il est sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption, l'évangile en personne, le royaume de Dieu en personne. Donc, tout ça sont des formulations de la foi. Et pourquoi on peut effectivement adhérer à cela sans être trop, trop mécanique?
Oui, parce que quand on lit les évangiles, on voit qu'en lui, la parole est agissante, la parole est contagieuse et son action nous sauve, son action donne le salut. Et on voit ça dans toute sa vie temporelle.
Oui, puisqu'en fait, on a un récit unique pratiquement de guérison, de scène de salut, de scène de où ça se termine bien, sauf la femme, si j'ose dire. Et alors Jésus, donc, dans ses textes, entre souvent en dialogue avec les hommes. Donc parlons un peu de ces dialogues.
Alors ces dialogues, c'est des dialogues qui se déroulent dans différentes circonstances et qui vont prendre des formes différentes. Souvent, c'est des dialogues assez courts, hein, du reste.
Dialogue impromptu, dialogue préparé pour, ou véritablement qui ressemble à une catéchèse. Fait quelquefois l'interview, il répond à les questions posées, il prend l'initiative, il rencontre des personnes. Donc on va voir un petit peu comment se font ces différents dialogues. Alors d'abord, il y a le dialogue sur « mais qui est ce Jésus ?»
Oui, alors
le dialogue sur son identité.
Alors c'est Jésus qui pose la question. Hein. Il pose la question à ses disciples, il leur demande au dire des hommes à César et de Philippe, au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Et il leur pose la question plus directe, et vous, Qui dites-vous que je suis ?
Alors c'est là que Pierre se révèle le plus futé, apparemment, puisque oui. Jésus le ramène, un peu... Il redit, non, c'est pas toi qui, alors c'est ça.
Oui. C'est quand Pierre lui dit, tu es le Fils de Dieu, Jésus lui dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Donc il y a un lien ici entre une révélation qui vient du Père et la foi que manifeste Pierre.
Alors c'est vrai que Léa, il y a cet échange au moment de la confession de Pierre, et puis du coup il est investi comme fondement de l'Église. Mais c'est vrai aussi que ce dialogue intervient lorsque des croyants s'interrogeaient. Jean-Baptiste qui envoie ses disciples dire « mais voyons, qui es-tu » Donc oui, là, cette identité n'était pas si évidente.
Non.
Et puis alors il y a aussi quelquefois des scènes un peu étonnantes. Imaginons un inspecteur des finances perché sur un tilleul. Bon, l'histoire de Zachée, par contre.
L'histoire de Zachée. Alors, Zachée qui voulait voir Jésus, qui est monté sur un arbre pour voir Jésus. Et c'était déjà une démarche de conversion. Alors, Jésus, le voyant, lui dit, Zachée, descends vite. Je viens chez toi. Je viens, il me faut demeurer dans ta maison. Bon, il ne lui laisse pas beaucoup le choix. Et... Jésus lui-même dit plus tard, le salut est venu dans cette maison.
J'avais organisé ma vie pour amasser beaucoup de biens. Je n'avais pas un seul ami dans mon métier de publicain.
Toute la ville a murmuré que tu quittais le droit chemin en choisissant de t'arrêter dans la maison d'un publicain. Demain, j'irai payer ma dette à tous les gens que j'ai volés. Maintenant, je n'ai plus qu'un maître. Tu m'as donné ton amitié.
Tu m'as dit
ça, c'est effectivement intéressant. Le salut est venu dans cette maison, c'est un pécheur, on lui reproche. Et c'est vrai que l'explication est quelquefois un peu difficile à entendre. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Oui.
C'est ce qui était perdu. Plus tard, il dira aussi, il abandonne tout son troupeau pour aller chercher la brebis perdue. En fait, ce n'est pas qu'il laisse de côté tout un ensemble de personnes. C'est plutôt qu'il s'intéresse aussi à ceux qui sont loin.
Oui, parce que c'est pas parce qu'il va s'intéresser à ceux qui sont loin qu'il délaisse les autres.
Il ne délaisse pas les autres parce que il pardonne les péchés. Et alors ça, c'est véritablement, dans tous ces dialogues, c'est ça qui devient la pierre d'achoppement, si j'ose dire, de ces dialogues.
Oui, parce que
ce qu'on lui reproche tout de suite.
Oui. Parce que c'est très, très provocateur. Et Jésus, dans ses dialogues, est traité de blasphémateur par son auditoire, parce que la prétention de pardonner les péchés est immense.
Alors c'est vrai quand même qu'une des premières fois où il y a cette provocation et en même temps ce questionnement de la part de ceux qui voient la scène, c'est quand même des gens qui ont une foi solidement chevillée au corps, parce que aller chercher un paralytique, le transporter, défaire les tuiles du toit et le descendre sur une civière, c'est quand même déjà une immense confiance.
Oui. Alors, ils ont confiance. Et ce que Jésus leur dit, avant de guérir le paralytique, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Ils viennent pour que l'homme soit guéri et Jésus pardonne les péchés.
C'est aussi tout à fait de l'époque, parce qu'à l'époque, ceux qui sont malades, ceux qui sont donc paralytiques ici, cela veut dire qu'il y avait vraisemblablement quelque part une faille dans la personne.
Oui.
Dans sa relation à Dieu.
Oui, mais justement.
Oui, commencer par dire, qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu même. Donc, l'action de Jésus qui guérit intervient là après l'action de Jésus qui, d'une certaine manière, révèle qu'il est Dieu, puisqu'il dit « tes péchés sont pardonnés ».
Et du reste, il l'explique en disant « afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit au paralytique « lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison ». Donc la guérison justifie la prétention à pardonner les péchés.
Alors là, on a une scène forte de l'évangile. Évidemment, c'est une scène très connue. Et puis, il y a une autre scène connue et où, là aussi, le Christ reproche aux hommes leur distance vis-à-vis de lui-même. C'est le dîner chez Simon le pharisien.
Oui, alors, lors de ce dîner, il y a une femme pécheresse qui exprime son repentir de ses péchés et... Ça choque beaucoup que Jésus laisse cette femme lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Et à ce moment-là, Jésus va répondre par une sorte de parabole à propos de la remise d'une petite dette et d'une grande dette. On retrouve cette idée de ceux qui étaient perdus.
Ceux qui étaient perdus et de ce... Mais toujours cette attention aux personnes. À Zachée, ici à la femme pécheresse. Et puis... aussi cette grande liberté. En fait, une fois que Jésus guérit ou sauve, il ne dit pas forcément aux gens « suis-moi ». Il les renvoie à leur vie. « Va en paix, va dans ta maison ». Donc, c'est assez intéressant de voir ces scènes. Et alors, il y a aussi, quelquefois, ce n'est pas dans une relation particulière ou une séquence particulière, mais simplement sur des scènes de rue.
Oui, par exemple... quand il voit une femme pauvre qui vient déposer quelques centimes dans le tronc près du temple, il fait remarquer la chose à ses disciples. C'est quelqu'un qui était attentif à tout ce qui se passait.
Alors il est attentif à ce qui se passe dans la rue, il est attentif à ce qui se passe chez ses hôtes, chez Marthe et Marie.
Oui.
Il dit à Marthe, tu en fais trop.
Oui. Et Jésus dit que... une seule chose est nécessaire. Alors, ce n'est pas toujours très clair. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fallait pas faire autant de choses pour préparer le repas ou est-ce qu'il fallait faire comme sa sœur Marie qui restait à écouter Jésus?
Quelqu'un en aurait mangé des cricouilles. Bon, oui. On ne sait pas quoi. Mais c'est intéressant parce que ça paraît presque en opposition avec ce qui se passe au dîner chez Simon. Le Christ reproche à Simon, tu n'as pas fait telle ou telle chose. Et là, il explique que Marthe en fait trop.
Oui.
Et puis, il y a aussi des dialogues qui sont, alors dans des circonstances particulières, le dialogue avec Marie-Madeleine après la résurrection, qui lui révèle un personnage attentif à Marie-Madeleine, donc attentif à une femme, ce qui, à l'époque, n'allait pas de soi, parce que les femmes, c'était bon. La deuxième partie de l'humanité dont on ne tenait pas beaucoup compte. Et puis, il y a quelque chose d'essentiel qui passe là. C'est la relation. C'est, en fait, l'homme vit de relation.
Oui, et Jésus intervient toujours pour le bien de ceux qu'il rencontre. Un bien physique, un bien spirituel. Et... même la rencontre la plus anecdotique est une intervention de salut.
Eh bien, nous allons nous arrêter là, puisque le temps s'écoule. Et la semaine prochaine, nous reprendrons justement ces séquences où Jésus répond aux questions, et qu'elles soient sincères, qu'elles soient pièges, qu'elles soient reproches. Notre émission s'achève. Et je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir.